L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raize automatique à partir de 3900 francs seulement.
Bonjour Jean-François Bodin.
Bonjour Nicolas.
On en parlait il y a quelques instants avec Lionel Sabot. L'UNC faisait donc sa rentrée solennelle hier et pour en parler, vous recevez sa présidente.
Oui, bonjour Catherine Risse.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un peu le branle-bas combat à l'université pour cette rentrée scolaire. Aujourd'hui, c'est les étudiants de première année qui font leur retour sur les bancs, c'est bien ça?
Oui, tout à fait.
Vous n'êtes pas comme les chefs d'établissement devant le grillage pour les accueillir le matin?
Je n'ai pas le don d'ubiquité, donc je suis là avec vous ce matin, mais dès 8h15, j'accueillerai le département des lettres et puis les autres ensuite. Et j'ai mon vice-président qui me représente à 7h45 ce matin.
C'est toujours un moment important, une rentrée pour des nouveaux étudiants. C'est une année qui se met en route. Enfin voilà, c'est une année de changement, c'est beaucoup de choses qui se passent.
Oui, c'est une étape dans la vie. Alors, ils ont fini leur enseignement secondaire, ils ont réussi un diplôme, le baccalauréat, le premier diplôme du supérieur. Et ils passent dans une autre étape où ils ont choisi, je l'espère en tout cas, leur orientation qui se précise dans des disciplines qui sont plus resserrées et puis surtout sur un mode qui est bien différent. Ils quittent le lycée, ils sont à l'université. On va les accompagner dans leur autonomie et leur maturité parce que c'est souvent cette transition qui est la plus difficile. Mais effectivement, ça marque aussi une étape de vie d'adulte en fait maintenant pour eux.
Sous quel signe est placée cette rentrée à l'université 2026? On sait que les années précédentes ont été compliquées, que ce soit 2024 ou 2025. Là, on se prépare à une année entre guillemets normale. Quels sont les mots que vous emploieriez pour définir cette rentrée et les souhaits que vous formulez?
Alors, ça s'inscrit, comme l'année dernière, dans l'accompagnement de la Nouvelle-Calédonie dans sa reconstruction, avec des projets qui vont porter des formations pour amener les compétences dont la Nouvelle-Calédonie a besoin. Donc, le mot, je pense, le plus important pour la rentrée, c'est les projets. On s'inscrit sur une dynamique, que ce soit localement, mais que ce soit aussi à l'international, avec l'accès à nouveau de la Nouvelle-Calédonie à nos étudiants de la région.
On va venir sur le développement régional et l'intégration régionale des étudiants, mais avant ça, sur ce qui concerne la participation d'une certaine façon au développement de la Calédonie, est-ce qu'il y a aujourd'hui des filières qui rencontrent un succès plus que d'autres? Est-ce que vous sentez des choix aussi des étudiants qui s'affinent d'une année sur l'autre?
Oui, alors les grands domaines sont, j'ai envie de dire, nombreux, dans lesquels la Nouvelle-Calédonie a besoin de compétences. Je citerai en premier peut-être le domaine des soins et de la santé, avec la structuration autour d'un pôle santé, sanitaire et social de ces formations. Donc, on a toujours notre licence accès santé, avec un nombre de places qui augmente, et notamment des places supplémentaires en médecine. On a également, on l'a dit, on accueille l'IFPSS depuis 2024, et le diplôme d'état d'infirmier, c'est une réforme nationale, va devenir un diplôme universitaire. Donc, on va y travailler cette année pour qu'à la prochaine rentrée, les étudiants soient inscrits dans un nouveau cursus qui sera porté par l'université en partenariat avec l'université de Bordeaux et bien sûr l'IFPSS.
C'est ce qu'on appelle l'universitarisation, ce qui est un mot quand même difficile à prononcer.
Oui, c'est vrai, oui. Oui, tout à fait, ça devient un diplôme universitaire en fait. Et puis des formations aussi professionnelles continues de travailleurs sociaux en contexte océanien. Un diplôme universitaire en ethnomédecine qui permet d'accompagner les praticiens dans l'utilisation, ou en tout cas la connaissance des pratiques de médecine traditionnelle, en particulier les médecines kanak. Voilà, donc il y a ce pôle santé, sanitaire, social. Il y a aussi tout le pôle autour de ce qu'on appelle la décarbonation de l'industrie et plus précisément la transition énergétique. Donc là, avec l'année prochaine, on va y travailler cette année, mais l'année prochaine, l'ouverture d'un nouveau département dans notre IUT, un département industriel en génie électrique et informatique industrielle. Donc, ce sont des beaux projets. Et puis, le projet d'IEP du Pacifique aussi, oui, auquel nous travaillons et sur lequel nous allons travailler cette année à la préparation des candidatures pour y entrer l'année prochaine.
Institut d'études politiques, il ouvrira l'année prochaine?
Oui. Alors, la licence, on va commencer par une licence. Le cursus, ce qu'on appelle le cursus Sciences Po, c'est un cursus de 5 ans. Donc, on va commencer par une licence, les 3 premières années qui seront faites dans le Pacifique. Et ensuite, les étudiants finiront les 2 dernières années dans un IEP dans l'Hexagone. Ils auront dans un premier temps le diplôme de l'IEP, le diplôme Sciences Po de l'institut dans lequel ils auront fini leur cursus. Et à terme, on vise la création d'un IEP du Pacifique pour pouvoir diplômer sur le cursus complet.
Il y a aussi toutes les filières qui concernent la transition alimentaire, le pôle l'école agricole ou agronome, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais qui lui aussi s'adapte ou accompagne les étudiants dans l'évolution des pratiques en Calédonie.
Oui, tout à fait. On travaille avec la Chambre d'agriculture, avec d'autres partenaires sur des formations. Alors, certaines formations qui seront des formations courtes, d'autres qui seront des formations un peu plus longues et de niveau licence sur l'accompagnement de la transition alimentaire, de la production à la transformation, la distribution. Donc sur l'ensemble de la filière, avec des compétences également en exploitation, en management et en gestion d'exploitation.
Alors l'université aussi, Catherine Riss, continue de se développer. Cette année, vous allez accueillir un nouveau pôle, ce qui va être inauguré, c'est le fameux Vectopôle, en lien avec l'Institut Pasteur. On sait qu'il y a un pôle et un endroit numérique qui est extrêmement développé aussi à l'université. C'est très important pour une université d'avoir comme ça des points d'accroche forts sur des sujets spécifiques ou avec des recherches ou des possibilités de recherche importantes.
Oui, tout à fait. Alors, on est quand même une université pluridisciplinaire. Donc, en fait, on essaye de couvrir au moins sur les disciplines, j'ai envie de dire, les plus importantes pour le territoire d'être présent. Mais d'avoir des spécialisations dans certaines disciplines, effectivement, ça permet de faire converger les moyens, les compétences et d'avoir un niveau d'expertise qui est reconnu au niveau national et au niveau régional et international.
Quelle est la vocation de ce Vectopôle pour le définir en deux mots ?
En fait, c'est de travailler sur ce qu'on appelle les maladies vectorielles, les maladies qui sont transmises par des vecteurs. Donc, dans le Pacifique, essentiellement, le moustique et le rat pour la leptospirose. Donc, c'est ça porte des programmes de santé publique, de lutte contre ces maladies.
Alors, Catherine Riss, qui fait aussi la réputation d'une université, parce que c'est quand même important aujourd'hui d'avoir une bonne réputation, c'est son intégration régionale, c'est la manière dont les enseignants-chercheurs peuvent être diplômés ou récompensés par des récompenses internationales. Est-ce qu'à ce niveau-là, vous sentez que l'université de la Calédonie prend petit à petit sa place dans son environnement régional, mais aussi dans son statut d'université classique?
Oui, je le crois tout à fait. Alors, ça se voit déjà par les récompenses qu'ont nos collègues, enseignants-chercheurs, et puis nos étudiants, quand ils participent à des compétitions internationales, qu'elles soient européennes ou régionales. Et puis aussi, moi, je le mesure aussi par la sollicitation croissante qu'on a de la part de nos universités partenaires, en particulier les universités australiennes, qui nous sollicitent directement quand ils montent des projets, ce qui nous permet aussi pour nous d'avoir accès à des financements auxquels on n'avait pas accès auparavant, puisqu'on était, nous, sur des guichets français, européens ou régionaux. Et puis là, maintenant, par ces collaborations, eh bien, on peut développer des projets qui sont financés aussi par les pays de la région.
Alors justement, le financement des études supérieures de cette nature, comment ça se passe pour l'université? Vous êtes toujours aussi à la recherche de fonds privés, en plus des fonds publics que vous pouvez recevoir. Quelle est l'autonomie financière de l'université et quelles sont vos inquiétudes ou est-ce que vous êtes plutôt rassuré pour cette année, financièrement parlant?
Alors, l'université est autonome d'un point de vue financier. Elle reçoit ce qu'on appelle une subvention de charge pour service public de la part de l'État, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qu'elle doit ensuite gérer. Elle peut créer des emplois, elle gère sa masse salariale, donc elle est totalement autonome d'un point de vue
fonctionnel.
Néanmoins, elle est soumise, on délivre des diplômes nationaux, on est soumise à des règles, on est soumise à des normes, à des évaluations. Donc, les enseignants-chercheurs, tout le personnel de l'université a un statut, qui est un statut de fonctionnaire d'État. Les diplômes sont des diplômes nationaux. Donc, avec la subvention qu'on reçoit, on est obligé de produire et de délivrer un service. Et la subvention qu'on reçoit n'est plus suffisante pour délivrer ce service. C'est la raison pour laquelle, effectivement, on fait appel à des financements extérieurs. Alors, des réponses à appel à projet qui financent sur un temps donné, et puis on fait le relais d'un projet à l'autre. Des financements privés, notamment via la fondation universitaire qui est éligible au mécénat. On a un accompagnement aussi par le secteur privé, et puis les institutions locales qui, quand elles le peuvent, accompagnent aussi des formations à l'université.
Alors Catherine Riss, l'université, c'est évidemment pour tout le monde, mais vous faites aussi attention à certains étudiants parmi ceux qui viennent, notamment les sportifs de haut niveau. Aujourd'hui, l'université adapte en quelque sorte son cursus pour permettre à ces sportifs de pratiquer aussi leur sport à haut niveau.
Oui, c'est ce qu'on essaye de faire pour que les sportifs de haut niveau n'aient pas à choisir en début de carrière, en début de vie même pour eux, entre une carrière carrière académique ou une carrière sportive. Donc, on adapte les cursus, on leur permet de participer à des entraînements, on leur permet de participer à des compétitions. On a expérimenté ça l'année dernière et ça a très bien fonctionné. Hein. Nos étudiants ont remporté de belles victoires et on espère que ça va continuer comme ça.
Et il y a aussi une option défense pour ceux qui le souhaitent, ça aussi, c'est une nouveauté ?
C'est une nouveauté cette année. En fait, on ouvre la poursuite de ce qu'on appelle les classes défense qui existent dans le secondaire. Donc, ce qui permet aux étudiants qui ont suivi ou pas ces classes défense dans le secondaire de pouvoir avoir une continuité à l'université en choisissant un enseignement en lien avec ces questions, avec une dimension géopolitique et géostratégique, avec des interventions qui vont être diverses hein, avec les différents partenaires.
Alors Catherine Riss, ça devait être une année importante aussi pour l'université parce que vous l'avez dit rapidement tout à l'heure, l'IUT va fêter ses 10 ans. Quand on se souvient de l'histoire de l'IUT, peut-être beaucoup n'imaginaient pas qu'au bout de 10 ans, il y aurait déjà un anniversaire. Les choses sont allées très vite. C'est une belle réussite, les IUT intégrées à l'université hein, aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Les IUT sont... Alors, l'histoire est un peu différente en Nouvelle-Calédonie. En France, les IUT, souvent, ont existé avant les universités. Dans certaines régions, il y en avait beaucoup. Ici, l'IUT est arrivé après. Il a été créé parce qu'il manquait quelque chose, hein, une formation technologique qui n'existait pas sur le territoire et qui remporte vraiment un grand succès, aussi bien en termes d'attractivité pour les étudiants. On a tous les ans plus de demandes pour entrer dans ces filières et à la fois en matière de débouchés, puisque en 3 ans, avec une 3e année à l'alternance, l'insertion professionnelle est vraiment facilitée.
Catherine Riss, et ce sera ma dernière question, on n'a pas parlé des effectifs parce que vous allez me dire qu'il faut attendre quelques semaines, voire quelques mois encore pour qu'ils soient stabilisés et qu'on sache exactement. Ceci dit, il y a de nombreux étudiants qui fréquentent le campus. On sait aujourd'hui que la situation économique et sociale est difficile, que pour certains étudiants, c'est aussi compliqué. Est-ce que l'université essaye de les accompagner, de leur proposer aussi des services qui font que leur vie d'étudiant sera plus facile et éventuellement moins chère ?
Ah oui, bien sûr, c'est essentiel. En fait, on ne peut pas parler de vie étudiante, de réussite universitaire sans avoir cet accompagnement sur les différents aspects de ce qui fait le quotidien. Le logement, l'hébergement, la mobilité, le transport.
La nourriture.
La santé, exactement. Et donc, on travaille beaucoup avec la MDE, hein, la maison de l'étudiant qui joue ce rôle sur le campus pour tous les étudiants et pas seulement ceux de l'université, d'ailleurs, de les accompagner. On a aussi adopté l'année dernière notre schéma directeur de la vie étudiante et de la vie de campus qui donne des orientations et surtout un calendrier de travail pour travailler sur ces différents points. On sait que la situation s'est évidemment dégradée hein, pour les étudiants, j'ai envie de dire en particulier parce que ce sont les publics les plus fragiles et qui sont les plus touchés en cas de crise. Donc effectivement, les aides sont nombreuses. Au-delà des bourses, les étudiants, et je le dis, qui n'hésitent pas, on a communiqué davantage sur l'accès aux droits. On a des étudiants qui sont en situation de précarité.
Mais qui ont peut-être de la pudeur aussi.
Oui, voilà.
De la difficulté à le dire.
Qui n'hésitent pas à le dire, à se rapprocher de l'assistante sociale qui est à la MDE, qui est présente pour eux, pour les écouter, qui peut accompagner avec des bons alimentaires, avec des tickets pour les transports et qui peut orienter. Il y a aussi des permanences médicales qui sont mises en place. Donc, c'est vraiment important que les étudiants ne restent pas seuls, ne restent pas isolés quand ils sont en difficulté, qu'ils se rapprochent de leurs enseignants, qui se rapproche des services auprès de la MDE.
Merci beaucoup Catherine Riss d'avoir accepté notre invitation ce matin. On va vous laisser partir accueillir vos nouveaux étudiants qui font donc leur rentrée puisque c'est aujourd'hui la rentrée des premières années à l'université. Merci beaucoup.
Merci à vous.